pourquoi aujourd'hui 5 adultes se sont-ils fait baptiser et 4 la semaine dernière?
En fait, il me semble que leurs témoignages disent tous une chose, c'est que Dieu leur a parlé et qu'ils ont compris qu'ils avaient absolument besoin de Jésus dans leur vie. Et j'aimerais poser avec vous cette question, mais qui est ce Dieu qui se révèle ainsi aux gens? Et qui est véritablement Jésus? Il y a 2000 ans, il y a 4 personnes qui ont vécu proche de Jésus pendant 3 ans. Et ces 4 nous ont rapporté un témoignage écrit assez extraordinaire et même totalement fiable. Ces récits qu'on appelle les évangiles ont été écrits quelques années ou quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. Il y a l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Et nous avons là 4 regards d'hommes qui étaient au plus près de la vie de Jésus, qui étaient au plus près de l'homme le plus extraordinaire de l'histoire, celui qui a laissé la plus grande trace jusqu'à aujourd'hui. Ils ont écrit des évangiles. Qu'est-ce qu'un évangile ? Évangile, c'est un terme qui veut dire « bonne nouvelle ». Et ses amis ont voulu relater l'extraordinaire nouvelle de Jésus. Ils ont été les témoins de faits extraordinaires. Et ils aimeraient, par leur témoignage écrit, nous aider à nous approcher de Jésus et comprendre qui il est encore aujourd'hui. Alors je me suis demandé, ne vous connaissant pas tous, comme je le soulignais tout à l'heure, si vous aviez déjà, une fois dans votre vie, lu l'évangile de Jean en entier. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grand, c'est un petit opuscule que je vous invite à découvrir dès ce soir. Jean, qui a écrit son évangile, était le meilleur ami de Jésus, le plus fidèle parmi les fidèles. Et dans son récit, il cherche avant tout à répondre à une question, mais qui est Jésus ? Jean était un témoin oculaire. Et il apporte dans ce récit la preuve que Jésus a bel et bien existé. Peu de gens en doutent aujourd'hui. N'empêche qu'il y en a quelques-uns qui en doutent encore. Mais Jean ne s'intéresse pas qu'à prouver le Jésus historique. Il cherche aussi à démontrer que nous tous, nous avons besoin de faire la rencontre de ce Jésus que lui a connu. Parce que Jésus peut transformer la vie de chacun d'entre nous. J'aimerais lire avec vous le début de son évangile. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement, c'est-à-dire avant le commencement de toute chose, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout, absolument tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme. Envoyé par Dieu, son nom était Jean. Et ce Jean a témoigné de la lumière. Et je lis un peu plus loin, verset 9. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et verset 14 encore, « Et cette parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jusqu'ici, notre lecture. J'aimerais souligner 3 choses à propos de cette lecture que nous avons faite dans l'Évangile. La première chose, c'est que Dieu parle. Dieu est un Dieu de la parole. Beaucoup de personnes croient qu'il y a une transcendance, il croit bien qu'il y a quelque chose ou quelqu'un au-dessus de nous. Mais qui est cet être ou cette chose qui serait au-dessus de nous? Comment agit-il? Comment peut-on le connaître? Les religions ont imaginé toutes sortes de voies différentes. Elles ont imaginé des moyens pour parvenir jusqu'à cet être qui nous transcende. Mais chacune a imaginé une voie différente. À l'époque où Jean écrit cet évangile, il y a deux catégories de personnes à qui il s'adresse. Il s'adresse à des Grecs d'abord, des gens qui n'ont pas d'héritage de la foi juive. Ces Grecs sont des gens polythéistes, ils croient en une multitude de dieux. Et d'un autre côté, les Juifs auxquels Jean s'adresse aussi, eux sont monothéistes, ils croient en l'existence d'un seul Dieu. Donc vous voyez déjà plusieurs voies. Mais tous, les Grecs ou les Juifs, croient en l'existence de quelque chose qui les dépasse. Ils croient que quelqu'un a dû donner vie à ce monde, sinon le monde ne serait pas là. Et cette chose, ou ce principe, les Grecs l'appellent le logos, la parole. Logos veut dire parole en grec. Les Grecs pensent qu'il doit exister une sorte de principe rationnel qui gouverne les choses. Il y a un principe qui doit organiser cet univers. C'est ce logos qui régit le fonctionnement du monde. On pourrait aussi l'appeler la raison, si vous voulez. Et pour eux, ce logos a dû ensemencer la terre et permettre qu'il y ait la vie sur la terre. D'un autre côté, il y a des Juifs. Eux, depuis Abraham, croient en l'existence d'un seul Dieu. Et ils pensent que ce Dieu a tout créé. Il a créé par le seul moyen de sa parole. Il a dit et la chose a été. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé et sa parole a été créatrice. Donc on a affaire avec le Dieu d'Abraham, non pas un Dieu lointain qui serait insensible à ses créatures, qu'il verrait de loin et dont il réglerait le monde aussi comme un horloger de très loin. Non, Dieu a parlé et il ne s'est pas fait silencieux. Dieu est un Dieu qui parle. Il a laissé des traces dans ce monde de qui il est. Une des manières de parler, c'est sa création. Elle est tellement belle, tellement magnifique. Elle nous parle de Dieu. Elle nous montre la grandiose beauté et bonté du Seigneur. Dieu aussi laissé des traces écrites. Il a parlé, par exemple, à Moïse, en lui donnant 10 principes auxquels il aimerait que tous les êtres humains puissent se conformer, ce qu'on appelle les 10 commandements. Dieu s'est révélé aussi en montrant parfois comment il agissait. Il a aimé un peuple, le peuple issu d'Abraham, le peuple d'Israël, et il a montré comment il pouvait être un Dieu libérateur. Il a permis que ce peuple, qui était esclave sous le Pharaon en Égypte, puisse être libéré et sortir de l'esclavage. Donc Dieu est un Dieu libérateur. Dieu est un Dieu qui parle. Mais Jean nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit que la parole ultime de Dieu, celle dont il se délecte, c'est une parole qui s'est incarnée en une personne, en son Fils, Jésus. Jésus est cette parole incarnée de Dieu. Jésus révèle Dieu. Donc quand on pose la question, mais qui est Jésus? Jean répond de la manière suivante. Il remonte aussi loin qu'il le peut dans le temps, et il nous dit que ce logos auquel Juifs et Grecs croyaient a été là avant même que le monde ne soit. On peut remonter aussi loin que l'on veut. Avant même la création de l'univers, il y avait déjà le logos. Rien ni personne n'a créé le logos, la parole. La parole était toujours là. Elle n'a pas eu besoin de venir à l'existence. Elle porte en elle la vie. Vous avez beau remonter dans le temps, vous ne trouverez jamais un moment à propos duquel on pourrait dire « il y a eu un temps où la parole n'était pas, où elle n'existait pas ». La parole a toujours existé. Et cette parole, nous dit Jean, c'est Jésus, ultimement. C'est une parole puissante, une parole qui agit. Jean nous dit que par elle, le monde existe. Et sans elle, le monde n'existerait pas. Rien de ce qui existe ne peut exister sans que cette parole se soit prononcée. Cela signifie, très concrètement, à propos de ceux qui voudraient être dualistes et penser qu'il y a le principe du mal d'un côté, le principe du bien de l'autre côté, que Jean n'adhère absolument pas à cette vision-là. La vision chrétienne du monde, c'est que tout procède d'un seul Dieu et de sa parole, et qu'il n'y a pas un autre principe quelque part qui lui échapperait. Et Jean nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que la parole était là dès l'origine en affirmant « la parole était avec Dieu » ou « la parole était auprès de Dieu ». Donc cette parole qui est avec Dieu, auprès de Dieu, est en quelque sorte le compagnon éternel de Dieu. Et dans la même phrase, Jean, cet ami de Jésus, nous dit « la parole était Dieu ». Donc il y a une identification entre la parole et Dieu. Il est Dieu, ce Logos, même s'il n'est pas à lui seul la totalité de la divinité. Parce qu'en Dieu, il y a de la place pour plusieurs personnes, Père, le Fils et l'Esprit. Un peu plus loin dans son évangile, Jean dira que les actes et les paroles de Jésus sont tout à fait pareils aux actes et aux paroles de Dieu. Imaginez, Jean a vécu 3 ans avec Jésus et il en vient à dire que son ami, son maître, possède la divinité, qu'il est, qu'il a le caractère divin. Pour le dire autrement, Jean affirme 2 choses. Il dit d'un côté que Jésus est pleinement humain, mais il dit que c'est beaucoup plus qu'un simple homme extraordinaire, c'est quelqu'un qui possédait la divinité. Il était Dieu. Dieu s'est révélé dans la personne de son Fils. Dieu s'est montré. Dieu s'est dévoilé en Jésus. Quand on voit Jésus, on voit qui est Dieu. Dieu a donc parlé. Et il a parlé en envoyant son Fils sur la terre, il y a 2000 ans. Et quand vous observez les faits et les gestes, que vous écoutez les paroles de Jésus, vous savez qui est Dieu. Deuxième élément que j'aimerais développer avec vous, c'est que si Dieu parle, cette parole est une parole qui détient la vie et qui transmet la vie. Au verset 4, Jean affirme, en elle, donc dans cette parole, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La vie aujourd'hui reste un mystère pour les scientifiques. Ils peuvent expliquer bon nombre de mécanismes, mais ils n'arrivent pas à expliquer jusqu'à ce jour comment la vie surgit à partir de rien. D'où vient la vie ? Eh bien, Jean, le disciple de Jésus, nous dit que la vie se trouve dans la parole, donc en Jésus. Il n'y a pas d'autre source de vie qu'en Dieu. Il n'y a pas d'existence réelle en dehors de Dieu et de son Fils Jésus. Jésus, si vous voulez, a toujours été là. Il est la vie, il détient la vie et il peut donner la vie. Personne n'a dû lui donner la vie, mais lui donne la vie à tout. Rien n'existerait sans lui. Et quand on poursuit la lecture de l'évangile de Jean, nous apprenons que non seulement Jésus a donné la vie à notre monde, mais on apprend qu'en Jésus, on trouve aussi une autre vie qui est de nature spirituelle. Il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de Jésus. Pour le dire autrement, au risque de choquer certains, il n'y a pas d'autre voie qui mène à Dieu que celle de Jésus. Toutes les autres voies de salut proposées dans ce monde sont des impasses. Troisième élément que je souligne dans ce texte, c'est que Jésus est la lumière des êtres humains. Le thème de la lumière se retrouve dans les principales religions de ce monde. Toutes parlent de lumière, quasiment. Mais ici, la lumière n'est pas juste un principe vague. C'est une personne. La lumière, c'est Jésus. Quand on enlève la lumière d'un endroit, que reste-t-il ? Que les ténèbres. Et chez Jean, chaque fois qu'il parle des ténèbres, il évoque un monde sans Dieu, un monde qui est hostile à Dieu, qui rejette Dieu et sa parole. En fait, les ténèbres, c'est l'incarnation du mal, si vous voulez. Et pour Jean, dans son évangile, il explique que le monde est fait de deux camps. Il y a le camp de ceux qui sont illuminés par la vie de Jésus, et il y a le camp de ceux qui sont hostiles à Jésus et qui sont dans le camp du rejet. Ce qui est paradoxal, c'est que la lumière est accessible à tous, mais tous ne l'acceptent pas. Certains refusent la lumière, et je me demande, pour ceux qui refusent la lumière de Jésus, si ce n'est pas quelque part la peur qu'il pourrait y avoir d'avoir un projecteur sur soi qui vienne dévoiler les coins sombres de l'existence, et nous en avons tous. Et du coup, les personnes préfèrent rester dans l'ombre pour que leur vie n'apparaisse pas au grand jour. Ils en seraient peut-être honteux, confus. Mais quand ils restent dans les ténèbres, ils se privent du Dieu de lumière, un Dieu qui aimerait les sauver. Vous le savez, il y a beaucoup de courants philosophiques, de courants spirituels qui proposent leur lumière. Nous avons même connu en France le siècle des Lumières. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule véritable et authentique lumière, labellisée, cachetée. Elle est vraiment authentique. Cette vraie lumière se trouve dans la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et si vous voulez trouver la lumière, il y a un chemin. C'est qu'il faut aller trouver la vie qui est en Dieu. Vous ne trouverez pas la lumière en dehors de la vie qui est en Jésus. C'est pour cela qu'au verset 12, Jean dit ceci. Il dit « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Permettez-moi cette question ce matin. Êtes-vous un enfant de Dieu ? Êtes-vous né à une vie nouvelle ? Certains deviennent enfants de Dieu, d'autres ne le deviennent pas. Mais on ne peut pas naître par ses propres forces. Vous n'êtes pas là ce matin parce que vous avez choisi de venir à l'existence. Quelqu'un vous a mis au monde. Pour la naissance spirituelle, il en va de même. Ce n'est pas par vos efforts que vous arriverez à une nouvelle naissance spirituelle. C'est Dieu qui va vous faire naître de nouveau, qui va vous donner une vraie vie, une vie spirituelle. On ne devient pas enfant de Dieu par héritage, par tradition, par culture. Pour le dire autrement, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter cette lumière qui va venir transformer notre vie. Il faut accepter que Dieu veuille venir mettre du sens et de l'ordre dans notre vie. Parce que sans lui, nous sommes morts. Nous sommes dans les ténèbres. Nous ne connaissons pas la lumière. Ce matin, vous êtes là, vous êtes vivant. Mais si nous n'avons pas reçu la vie de Dieu en nous, en fait, bien que vivants, nous sommes morts spirituellement. Nous n'avons aucune espérance pour la vie après la mort. Si ce matin, vous ne possédez pas la vie de Dieu en vous, j'aimerais vous inviter à un pas nouveau. Dieu vous tend la main. Dieu est là pour dire « J'aimerais faire une alliance avec toi. J'aimerais te partager ma lumière. Acceptes-tu de prendre ma main, de la serrer ? Je vais prendre soin de toi jusqu'à la fin. » Cette main tendue que Dieu vous adresse, saisissez-la si vous ne l'avez pas encore saisie. Faites-lui confiance. Il va vous délivrer. Il va vous délivrer de vos emprisonnements, de vos doutes. Il va vous permettre de vivre une vie nouvelle avec lui. Abandonnez-vous à Dieu. Demandez-lui de vous faire naître à cette vie nouvelle. Il le fera parce qu'il le promet. Amen.